Les opérateurs font grise mine, peu de volume échangé, une baisse importante du CAC 40.
Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission.
Enfin, samedi, dernier jour de la
semaine. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez ?
Alors bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui sont là depuis le début, aux deux, trois têtes qui nous ont rejoints depuis le début de l'enregistrement également. Bienvenue dans l'Amplifié, votre journal d'actualité bimensuel sur Transistor. Alors comme l'ensemble de cet enregistrement exceptionnel de rentrée, ce numéro de l'Amplifié, le 7e, réunit une équipe un petit peu chamboulée par rapport à l'an dernier. Notre cher économiste Lino n'a malheureusement pas pu être parmi nous, il n'y aura donc pas d'économie aujourd'hui. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, vous en jugerez en écoutant les anciens numéros. Et Aurore remplace Céline pour un des éditos. Alors, je vous parle de tout ça, mais question légitime, qu'est-ce que c'est que l'Amplifié ? Alors l'Amplifié, c'est d'abord une revue de presse, histoire de se mettre un petit peu dans le bain de l'actualité, une revue de presse qui va ouvrir l'émission avec Jérémy aux manettes. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors ensuite, moi, je vous proposerai une enquête sur un sujet très en lien avec l'actualité, qui est la question de la pression migratoire, comme on dit pour faire sérieux dans les journaux européens, et notamment la prise en charge de ces réfugiés qui fuient le Proche et le Moyen-Orient. C'est ensuite à Maëlys que je laisserai la parole. Bonjour Maëlys.
Bonjour.
Alors tu es chargée de nous livrer un billet politique. C'est quoi l'humeur de la rentrée ?
C'est un peu la grosse blague des universités d'été.
Évidemment. Et enfin, c'est Aurore qui prendra la parole. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Alors avec toi, on va quitter l'Europe aujourd'hui pour le billet international, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. On part au Venezuela aujourd'hui.
Oui, donc on va partir très loin de l'Europe. Et enfin, après tout ça, on conclura l'émission tous ensemble avec une petite discussion autour de la table sur les thèmes qu'on aura abordés aujourd'hui.
Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors l'un des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, c'est la réforme du Code du Travail, Jérémy.
Oui, alors le Code du Travail et sa mort annoncée en fait avec le rapport que Jean-Denis Gombrowicz va rendre à Valls aujourd'hui sur le sujet. Et alors c'est l'Opinion qui a réussi à se procurer ce rapport avant tout le monde et qui en livre les bonnes feuilles comme on dit. Et le quotidien libéral se réjouit du contenu du rapport qu'il partage entièrement en vantant une rare audace, un rapport pour tout chambouler. Car effectivement, ça va tout chambouler en renversant complètement la pyramide des normes qui encadre le salariat. La loi n'agira qu'en ultime recours. Un renversement législatif majeur donc, mais qui ne va pas assez loin aux yeux de certains.
Ah bon ?
Eh oui, on a Olivier Robert de Massy, toujours dans l'Opinion, dans une tribune, qui voit dans cette focalisation sur le rapport du travail... l'arbre qui cache la forêt. Bah oui, vous comprenez, il n'est pas contre, bien au contraire. Mais il préférerait qu'on piétine aussi le statut des fonctionnaires, qu'on diminue les retraites et qu'on baisse le niveau des indemnités chômage. Donc du coup, on se détourne de l'essentiel. La vie est trop injuste. Au Figaro, les commentaires, faisant fi du contenu même du rapport, font même dans le fatalisme.
Oui, le Figaro.
Le Figaro, quoi. Gaëtan de Capelle parle dans son éditorial d'occasion manquée, sous prétexte que François Hollande, hier, dans sa conférence, a minimisé d'avance les sujets qui seront traités dans ce rapport. Mais en fait, tout ça de manière tellement floue, comme d'habitude, qu'on est libre d'y comprendre ce qu'on veut. Et c'est bien ce que fait le Figaro.
Et dans le reste de la presse ?
Dans le reste de la presse, on a Libération avec un angle d'attaque intéressant. Libération s'attarde sur le contexte médiatique de cette réforme, avec une ironie assez amère. Il souligne notamment un très curieux hasard. Début septembre, Robert Badinter a publié un livre demandant de réformer le Code du Travail. La semaine dernière, c'est le think tank de droite, l'Institut Montaigne, qui publiait un rapport là-dessus. Le même jour, le think tank de gauche, Terra Nova, qui faisait aussi un rapport. Et aujourd'hui, donc une semaine plus tard, c'est ce rapport Gombrowicz. Et évidemment, tous avec des conclusions à peu près similaires. C'est la lourdeur du Code du Travail qui est responsable du chômage, comme chacun sait. Très curieuse convergence. Et comme le dit Libération, réformer le Code du Travail serait devenu en quelques mois la nouvelle pensée unique de la gauche dite réformiste jusqu'aux libéraux. Décidément, le clivage droite-gauche a encore bien du souci à se faire.
Et sur un tout autre sujet, ce sont les réfugiés aussi qui continuent d'occuper les commentateurs.
Oui, on va en reparler tout à l'heure. Alors cette fois, l'émotion s'est quelque peu dissipée pour laisser place à l'anticipation. Et ce qui préoccupe le plus les journaux aujourd'hui, c'est de savoir comment accueillir les 24 000 réfugiés annoncés hier par le président de la République. La une du Parisien aujourd'hui en France, accueil des migrants, la France se prépare. Parce qu'il va bien falloir choisir qui accueillir. Et le quotidien s'intéresse aux critères de sélection qui vont s'opérer. Au-delà des considérations morales, affirme-t-il, peut-on distinguer un migrant d'un autre ? Oui, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Voilà, c'est dit très nettement. Et dans un billet pour l'Opinion, Luc de Barrochet souligne combien Angela Merkel, après son intransigeance cet été face aux Grecs, a su s'emparer de cette question des migrants. Le génie d'une dirigeante comme Merkel, écrit-il, c'est d'avoir l'instinct politique de saisir le moment exact où elle pourra faire acte d'autorité, mobiliser l'opinion publique derrière elle et entrer dans l'histoire. Pas de générosité intéressant en la matière, donc. Et la politique finit toujours par reprendre le dessus, comme le montrent aussi les divisions chez les Républicains en la matière, dont la presse fait état. D'ailleurs, l'hebdomadaire Le 1 consacre tout un numéro à cette question des réfugiés, avec à côté d'un poème un peu nunuche de Laurent Godet.
Tu nous en lis pas d'extrait ?
Non, on va passer là-dessus, ça vaut mieux. D'intéressantes remises en perspective historique et démographique qui valent le coup d'œil.
Et sur un tout autre sujet, un sujet majeur dans vos vies futures, faut-il utiliser les nouvelles technologies pour fliquer ses enfants ?
Bah oui, c'est la question que pose le supplément « Parents et enfants » de La Croix, qui est souvent d'assez bonne tenue, quoi qu'on puisse en penser. Car beaucoup de parents détournent les nouvelles technologies pour en créer des instruments de contrôle sur leurs enfants. Alors, on peut suivre son enfant à distance grâce à son smartphone, ou même carrément, certains osent lui fournir un traceur GPS sous forme de porte-clés. Comme si l'enfant connecté était un enfant protégé. Et 30% des parents avouent espionner leur enfant sur Internet pour s'assurer de leur fréquentation. Évidemment, au risque d'injonctions contradictoires, comme le souligne un psychologue clinicien, les parents offrent à leurs enfants un portable comme symbole d'émancipation, mais aussi en même temps comme objet de contrôle.
Il existe pourtant une manière très simple pour ne pas se faire espionner à cause de son portable.
Mais oui, il suffit de se débarrasser, de le foutre à la poubelle, et le tour est joué.
C'est radical.
Et oui, et c'est ce que prône avec ferveur le réjouissant mensuel La Décroissance, qui se présente comme le journal de la joie de vivre. Alors, on y trouve par exemple un excellent plaidoyer qui fait le lien entre décroissance et sensualité, notamment en matière de gastronomie. Parce que la lenteur fournie par la décroissance, c'est le plaisir des sens. Avec cette belle devise, lentius, suavius, profundius.
Un peu de latin pour se cultiver.
Exactement. Traduction plus lentement, plus profondément et avec plus de saveur. Et bien sûr, ça donne de quoi fermer le bec à tous ceux qui s'imaginent que la décroissance consiste à manger tristement de fat tampinambour bio.
Et pour finir, puisqu'il est question de sensualité, c'est Le Monde qui a décidé de nous parler d'orgasme.
Mais oui, Le Monde toujours promis sur l'orgasme. Mais alors attention, cette fois, orgasme simulé. C'est dans le supplément Science et Médecine. Il y a une équipe de psychologues américains qui a interrogé 900 femmes pour savoir pourquoi elles simulent quand elles simulent. Et résultat, la principale raison, c'est ce que l'article appelle la tromperie altruiste. Pour faire plaisir, pour pas vexer. Sympa, non ?
Effectivement.
Et autre raison invoquée, on fait semblant pour que ça se termine plus vite, pour aller dormir. Ou bien, et ça c'est plus tordu, on fait semblant de jouir vraiment pour finir par jouir par auto-persuasion. Mais l'article ne dit pas si ça fonctionne.
On a donc beaucoup de soucis à se faire sur nos orgasmes, qu'ils soient masculins ou féminins, j'ai l'impression. Alors, merci Jérémy pour cette revue de presse. On va aborder un autre thème d'actualité que tu as évoqué, qui est la question des réfugiés et des migrants. Donc cette question des réfugiés politiques occupe toujours le devant de la scène, de plus en plus depuis quelques mois, avec cette expression bien hypocrite bien abstraite de question migratoire, et c'est ça qui va nous occuper maintenant, puisqu'en ce moment, les migrants en provenance d'Afghanistan, de Syrie et plus généralement du Proche et du Moyen-Orient sont de plus en plus nombreux du fait de la situation géopolitique très troublée et très dure dans cette région du globe. Alors, on commençait presque à s'habituer à ces naufrages en Méditerranée, des naufrages qui suscitaient l'émotion, et seulement l'émotion, dans nos pays occidentaux. En revanche, des réfugiés qui traversent par milliers un pays pour rejoindre l'Europe, ça c'est assez inédit depuis pas mal de temps quand même. Alors, Serbie, Hongrie, Autriche, Allemagne, tous sont dépassés par les milliers de personnes qui arrivent chaque jour, au point que l'Union européenne, encore une fois, ne sait plus trop quoi faire. La chancelière allemande Angela Merkel a finalement autorisé le week-end dernier l'arrivée des réfugiés depuis l'Autriche, dans un geste de solidarité aussitôt condamné par les conservateurs en Bavière.
Alors, l'Allemagne ne nous avait pas habitués, c'est ça qui est surprenant, à montrer un visage aussi accueillant et généreux ces derniers temps vis-à-vis des pays du Sud.
Bah oui, parce qu'après l'intransigeance vis-à-vis de la Grèce, la générosité allemande peut surprendre un petit peu. Mais pas tant que ça, en fait. En réalité, l'Allemagne répond de manière assez pragmatique à la situation. Tu notais le génie politique d'Angela Merkel, et de toute façon, que pouvait-elle faire face à autant de réfugiés à sa frontière ? Notons d'ailleurs que c'est plutôt la société civile allemande qui se mobilise pour offrir à ces réfugiés un accueil digne de ce nom. Ils sont 14 000 rien que dimanche à avoir passé la frontière allemande, et le gouvernement s'attend même à dépasser la barre des 800 000 réfugiés, des réfugiés politiques, admis en Allemagne en 2015.
Bon, et au niveau européen, les choses commencent à bouger, il y a eu des déclarations, non ?
Alors oui, le 3 septembre dernier, c'était la chancelière Merkel et le président Hollande qui ont appelé ensemble à la création d'un mécanisme permanent et obligatoire de relocalisation. On appréciera évidemment cette série de termes très abstraits pour une réalité qui, elle, est beaucoup trop concrète. Le président français a aussi annoncé que la France accueillerait 24 000 demandeurs d'asile supplémentaires. Alors, ces 24 000 réfugiés, 12 000 par an, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que rien qu'en juillet, la France a accueilli 6 700 réfugiés via cette procédure de demande d'asile. Bon, et ne crachons pas trop sur l'Europe, elle tente aussi d'organiser l'accueil des réfugiés.
Donc c'est pas gagné, c'est ça ?
Bah malheureusement non, parce que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, malgré un certain volontarisme sur cette question, a beaucoup de mal à unir tous les États européens. Il a proposé un plan ces derniers jours mettant en place un système de quotas. Chaque pays européen se verrait attribuer un quota de réfugiés à accueillir, à l'exception de la Grèce, de la Hongrie et de l'Italie, du fait de leur situation frontalière. Et tout est pensé pour convaincre les pays européens. La Grèce, la Hongrie et l'Italie se verraient attribuer 500 euros par migrant pour que ceux-ci puissent quitter le pays, tandis que les pays d'arrivée se verraient offrir 6 000 euros prélevés sur le budget communautaire par migrant accueilli. Mais le nombre de migrants accueillis, lui, cristallise les tensions. La France devrait ainsi accueillir au moins 24 000 réfugiés supplémentaires d'ici la fin de l'année. François Hollande qui veut bien en accueillir 24 000 dans les deux années à venir tout de même. La situation n'est donc pas vraiment gagnée, effectivement.
Et on voit que dans les réactions des hommes politiques, c'est parfois assez houleux.
Bah oui, parce qu'outre les habituelles déclarations selon lesquelles l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est un mot notamment du Premier ministre hongrois, on entend aussi des choses franchement racistes quand même. Alors ainsi, le maire de Roanne, une ville qui n'est pas très loin de Lyon, hein, ça peut nous donner des idées de voyage, s'est dit prêt à accueillir des réfugiés, mais seulement s'ils sont chrétiens. Bah oui, ma bonne dame, hein, c'est ce qu'il dit au marché le dimanche midi. Le raisonnement est implacable, on est sûr que ce ne seront pas des islamistes, si on leur demande s'ils sont chrétiens. Hein. Ça me paraît logique, je pense à vous aussi. Et le plus choquant, c'est ce qu'il dit après. Ça mettra peut-être plus de temps pour vérifier que ce sont des gens qui sont bien persécutés, que ce ne sont pas des réfugiés économiques, et qu'ils quittent leur pays en urgence parce que Daesh souhaite les liquider sur leur territoire. Parce que les réfugiés économiques, c'est un leitmotiv qui revient souvent en ce moment.
Et c'est comme ça qu'on appelle l'immigration clandestine maintenant, c'est ça ?
Bah oui, c'est à peu près ça. Marine Le Pen aussi est partie en guerre contre l'accueil de ces réfugiés, considérant, au mépris de nombre d'enquêtes internationales, que 90 ou 99%, je ne sais plus, d'entre eux étaient des hommes venant pour raisons économiques. Parce que, dit-elle, elle a vu les images à la télévision. Et Jean-François Copé, lui, par contre, qui était connu pour ses positions extrêmement dures sur l'immigration, a annoncé vouloir prendre sa part dans l'accueil des réfugiés en tant que maire de Meaux. Alors la politique et les surprises, hein, toujours. Alors on revient en France maintenant pour parler politique et pour prendre un peu la température de cette rentrée avec toi, Maëlys. Alors, tu as décidé de faire un papier sur les universités d'été, tu as sorti ton thermomètre, tu es allé voir Cambadélis, Sarkozy et compagnie ?
Oh, bah, le thermomètre, on n'avait pas besoin de le sortir, hein. Ça a fleuri suffisamment dans les journaux tout l'été pour se rendre compte de l'ambiance. Alors, un petit point rentrée politique, puisque se sont tenues ces 10 derniers jours les universités d'été des principaux partis français. Enfin, université, on n'a pas appris grand-chose, hein, les universités d'été politique étant à l'université avec un grand U, la fac pour les intimes, ce que Paris Match est à la littérature. Voilà, vous êtes prévenus, j'aurais vraiment voulu vous parler de discours historiques, d'envolées lyriques, des « je vous ai compris », des « vous n'avez pas le monopole du cœur » et autres « je vous demande de vous arrêter », réplique qui a sa propre page Wikipédia, oui, vous coucherez moins bête ce soir.
Merci Maëlys.
Non, désolé, pas cette fois-ci. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette année, personne n'a eu le monopole du foutoir.
Ah bah disons.
Au menu des coups d'éclat, coups de poignard et beaucoup de langue de bois, le changement dans la continuité avec le reste de l'année, vous me direz, la zizanie n'a épargné personne et même les éléphants du Parti Socialiste se sont déchirés comme des fauves. Bon, ça c'est pas vrai du tout, hein, c'était juste pour l'image. Bazar à gauche ou bazar à droite, Clément ? Je commence par quoi ?
Oh, allez, bazar à gauche ?
Bazar à gauche. À gauche, toutes ces parties. Au front de gauche, composé du PCF qui est parti à la montagne pour faire sa petite rentrée au Quéraillé, exactement, département de la Savoie, 73, préfecture Chambéry. Et du parti de gauche, le passage à Toulouse.
Il va falloir réviser sa géographie. Hein.
31, département de la Haute-Garonne.
Qu'est-ce que je disais ?
C'est là que ça commence à se muscler un peu. Il y a un peu de bisbille entre Pierre Laurent du PCF et Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche. Motif, les prochaines élections régionales dans lesquelles Jean-Luc Mélenchon souhaite réellement élargir, je cite, le front de gauche en direction des Verts pour former un label commun. Une bien bonne idée sur le papier, mais c'est sans compter Pierre Laurent qui n'a pas manqué de critiquer l'initiative de son collègue. Donc là, je vais citer le Figaro.fr, hein, une fois n'est pas coutume. redoutant que le... Il a critiqué Jean-Luc Mélenchon, redoutant que le front de gauche ne se trouve obligé de remorquer une Europe Écologie Les Verts qui chercherait à sauver les meubles. Bon, concernant Europe Écologie et ses meubles, il n'a pas tout à fait tort, on va en parler tout de suite. Mais pourquoi tant de défiance envers les Verts, me direz-vous ? Eh bien, pardi, à cause de petites histoires d'ego, bien sûr. En cause, le maintien de la candidature en Ile-de-France de Pierre Laurent, soutenue par les communistes, face à Emmanuel Cosse, sainte patronne des écolos, que les mélenchonistes ne veulent surtout pas froisser pour obtenir un accord. Bon, deux contre un, il pourrait peut-être faire plier Pierre Laurent, mais c'est sans compter le fait que Emmanuel Cosse a déclaré en conférence de presse, il y a une semaine, qu'elle était un peu blasée.
Carrément.
Ouais, carrément, et qu'elle ne souhaitait pas spécialement faire un accord avec le Front de Gauche. Donc là, je vais citer Emmanuel Cosse. « Je suis assez fumasse quand je vois la manière dont d'un seul coup tout le monde a envie de spoiler les écologistes et de penser que nous ne sommes intéressants que quand nous sommes rattachés à eux. Ça vaut pour les socialistes, mais ça vaut aussi pour le Front de Gauche. » Voilà, du coup Mélenchon peut aller revoir sa copie. Manu la fumasse a dit que le Front de Gauche écolo n'était pas pour demain. En termes d'université d'été, le Front de Gauche n'a pas vraiment à se plaindre. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être celle de Europe Écologie Les Verts à Lille, dans le 59, département du Nord. Voilà. L'été 2015 a été pour ce parti ce que la guerre de sécession a été à l'histoire des États-Unis, mais en pire parce que maintenant il y a deux partis écologistes, depuis la défection de Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, et de Jean-François Rugy, président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Donc ces derniers se sont empressés de former un nouveau parti, les tadadam écologistes, avec un point d'exclamation.
Notons l'originalité.
Situation inédite sous la Ve République, c'est la première fois que deux membres de cette stature se barrent dans leur coin comme ça. Il faut croire que 2,3% des voix aux dernières élections présidentielles, c'était trop pour les Verts, qui avaient besoin de diviser leur score entre deux partis par deux, pour assassiner leurs ambitions et surmonter leurs différends. Donc, je me suis cru à l'université d'été d'attaque sponsorisée par Mediapart, a déclaré Jean-Vincent Placé hier à ITélé, en parlant du congrès lillois. Non, c'est pas vrai. Qui eût cru que Europe Écologie Les Verts était un parti bien à gauche ? Il fallait bien y rester 10 ans pour s'en rendre compte. Bon, en même temps, cela faisait des mois que Placé s'empressait de manifester son soutien au PS, voire au gouvernement Valls sur des dossiers aussi écologiquement sensibles que le traitement des migrants, les ZAD, la transition énergétique. Des mois que ça sentait le roussi, on pousserait presque un ouf de soulagement grâce à cette sécession.
Ouais, un portefeuille ministériel, ça n'a pas de prix. Hein.
Voilà, c'est sûr. On passe maintenant au centre, le PS, réuni à La Rochelle, 17, département de la Charente-Maritime. Bon, personne n'a loupé le discours de Manuel Valls en chemise mouillée de sueur dans la torpeur estivale, telle Vénus sortant des flots. Il a affiché sa fermeté face à l'immigration économique et déclaré sans complexe que les 6 derniers mois en Grèce étaient une leçon politique et éthique pour toutes les gauches d'Europe. Voilà. Le pire, c'est que tout le monde a applaudi. Bon, c'était sans compter la copieuse volée de huées qu'il a reçue de la part de certains jeunes socialistes lors du banquet de clôture, rapporte le journal du dimanche.fr. Une cinquantaine de personnes auraient hué Valls, scandé des Macron démission et Taubira présidente. Et on en serait venu aux mains.
D'après certains tweets, Manuel Valls aurait même étranglé un militant.
Voilà.
D'après certains tweets.
Donc selon RTL, le service d'ordre a été obligé de ceinturer le secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis.
Ça virait à l'émeute en fait.
Voilà, et le bruit a couru un temps que Manuel Valls avait giflé un militant qui s'était approché un peu trop près et l'avait insulté. Heureusement, cette information a été vite démentie par un autre jeune militant sur le site de BuzzFeed. Donc Clément, c'est ma dernière chronique, oui. Je cite n'importe qui. Hein.
Oui, oui, vas-y, fais-toi plaisir.
Selon qui, Manuel Valls ne l'aurait pas giflé, mais se serait assis à côté et lui aurait tapoté la joue. Oui, tapoté la joue. Entre nous, une bonne grosse baffe, c'était presque moins ridicule. Je ne vous parlerai pas de l'université d'été de l'UDI parce qu'il n'y en a pas, ni de celle du MoDem parce qu'il n'y en a pas encore, parce qu'elle n'est pas passée, c'est fin septembre. Pour les plus téméraires, c'est du 19 au 21.
Tu t'as noté où c'était ? Il y a peut-être des gens
ouais,
qui
j'avais
envie
noté,
de...
mais je l'ai effacé.
Bon,
je
bah
crois
comme
que
ça.
C'était dans le Morbihan, mais à vérifier.
Si vous avez envie de partir dans le Morbihan. Hein.
En Bretagne. Par contre, j'embraye sur les Républicains réunis à la Baule en Loire-Atlantique, donc 44 préfectures Nantes. Très bien. Je vois qu'on suit. Ambiance plus calme en apparence, mais la brochette de sourire forcée entre Fillon, Juppé et Sarkozy pour la photo valait amplement la foire d'empoigne socialiste. Malgré le mot d'ordre « unité exigée », on a bien senti que ça leur coûtait un peu et que chacun avait déjà fait son agenda. D'après RFI, aucun des trois ténors n'a tenu à assister au discours de ses rivaux, notamment Alain Juppé et François Fillon qui se sont dépêchés de rentrer à Paris pour ne pas avoir à assister au discours de Sarkozy. Ce dernier a eu l'élégance de le faire remarquer à tout son auditoire, je cite « Excusez le départ de mes amis Alain Juppé et François Fillon qui prenaient leur train à 16h30 ». Bon, cette touche d'ironie aurait pu être rigolote. Si, je dis bien si, le Canard enchaîné n'avait dévoilé ce matin dans son édition d'aujourd'hui du coup que le voyage en jet privé de Sarkozy pour se rendre à la Baule, pour la modique somme de 25 000 euros d'après le Canard, 12 000 d'après le trésorier des Républicains. Bon, à côté un billet SNCF, ça coûte pas très très cher. Et en tout cas, on peut penser que ça a bien soulagé les quelques 70 millions d'euros de dettes du parti.
Ils vont être obligés de le vendre, le siège rue de Vaugirard,
c'est
finalement,
ça,
un de ces
je
jours.
Je crois que c'est ça. J'enchaîne et je conclue avec le FN dont on parle comme d'habitude beaucoup trop. Réuni à Marseille, Bouches-du-Rhône, numéro de département 13, très bien. Placé sous le signe de la rupture perfide, vieille base raciste et violente contre FN présentable, on pouvait tout de même croiser des gens du GUD dans les allées. Marie ne renie pas les ses amis de longue date. Rien de neuf non plus du côté des idées, puisque la plupart des journaux ont noté que le discours de la présidente avait de quoi faire jubiler son père. L'immigration est un fardeau, une terrifiante crise migratoire guette, blablabla, 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 blablabla. Une seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Jean-Marie Le Pen a décidé de créer un rassemblement bleu-blanc-rouge, plus ou moins en concurrence avec le FN. Bon, le nom est à revoir parce que Nicolas Dupont-Aignan l'aurait déjà déposé, donc affaire à suivre. Si ça pouvait diviser les scores... c'est vrai en plus, hein, c'est pas une blague. Si ça pouvait diviser les scores aux prochaines régionales par deux, voilà qui serait sympa pour la France. Voilà, que du beau pour l'année politique à venir, qui on l'espère sera un peu plus constructive et intéressante que ne l'ont été ces vacances.
Et comme on a les élections régionales en décembre, on peut toujours espérer, je pense.
C'est ça. Je crois aussi, l'automne va être sympa.
Alors merci Maëlys pour ta dernière chronique où tu as cité tout et n'importe quoi. C'est très bien, bravo, je te félicite. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir quelques buenas sondas sur ce plateau. Hein Aurore, on va se retrouver après une petite virgule.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du Venezuela.
Donc, on traverse l'Atlantique.
Tout à fait. Parce que pour la première fois depuis 1999, le Venezuela a déclaré l'état d'urgence le 19 août dernier pour 60 jours et a décidé de fermer, de manière indéfinie, 2219 km de frontières avec la Colombie. Donc, des crispations diplomatiques sont palpables entre Caracas et Bogota. Le président colombien, Juan Manuel Santos, a condamné le 25 août dernier les violentes expulsions de Colombiens installés dans cette zone frontalière. Le 27 août, la Colombie rappelle son ambassadeur et le Venezuela fait de même avec le sien en poste à Bogota. La crise est manifeste et les tensions évidentes. Mais cette crise diplomatique semble avoir des racines beaucoup plus complexes découlant de la situation instable d'un Venezuela aux abois, comme le titrait Le Monde le 26 août dernier. Effectivement, c'est que la fermeture soudaine d'une partie de la frontière avec la Colombie s'explique surtout par des problèmes internes au pays.
On a entendu des problèmes de pénurie, notamment dans les médias occidentaux.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette frontière instable, où pullulent les groupes armés, les guérillas, les trafiquants de drogue, stimule un marché noir phénoménal dans un pays où la contrebande a pris une ampleur considérable depuis que les prix et l'échange sont contrôlés. La contrebande devient même plus rentable que le trafic de drogue au Venezuela, et c'est dire.
Ah oui.
Et elle s'appuie sur les sévères pénuries qui touchent le pays. D'ailleurs, un récent rapport de l'Organisation International Crisis Group sur la situation économique et sociale au Venezuela souligne le désastre de la gouvernance, la dégradation du climat politique et la détérioration de la situation économique. Le pays enregistre l'inflation la plus élevée du monde. La hausse des prix dépassera bientôt la barre des 100%, d'après ce qu'affirme le FMI. la croissance a chuté, pardon, de 4% en un an. Chuté, non, on est toujours dans le trafic de drogue, de 4% en un an. Et le FMI prévoit pour 2015 une contraction du PIB vénézuélien de 7%. Il faut se rendre compte. Le salaire minimum est passé de 170 dollars en septembre 2012 à 14 dollars aujourd'hui.
Et cette grave récession touche directement les populations.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on assiste à une valse des prix qui grimpe toujours en flèche. On peut même voir dans les rues de Caracas des prix écrits à la main qui changent toutes les semaines.
La dernière fois qu'on a vu ça en Europe occidentale, je crois que c'était en 1924 en Allemagne, pour dire un peu l'exceptionnel d'une situation à laquelle on n'est pas habitué.
Tout à fait. C'est-à-dire que le prix de pétrole là-bas, le prix du pétrole en général s'est effondré, et vu que c'est la principale ressource du pays, les rentrées d'argent ne se font plus, le privant de la moitié de ses ressources et de ses devises. Les magasins sont quasiment vides ou dévalisés par les bachaqueros qui revendent les marchandises au prix fort sur le marché noir. Tous les jours, les Vénézuéliens font la queue devant ces magasins vides et ils en arrivent même aux mains. Le manque se fait sentir, mais ce n'est pas la faim qu'ils redoutent le plus dans l'immédiat.
Ah oui ?
Non, parce que le plus inquiétant reste la situation sanitaire qui se dégrade à une vitesse folle.
Qu'en est-elle ?
Les hôpitaux manquent de matériel, d'équipement et les pharmacies ne sont plus approvisionnées. On voit des malades et des femmes enceintes errer d'hôpital en hôpital pour trouver une place. C'est-à-dire que la délinquance explose et l'insécurité est vraiment considérée par les citoyens comme l'un des plus grands problèmes du pays.
Mais non, sur un continent où déjà l'insécurité est un problème global.
Par exemple, petite anecdote, le 31 juillet dernier, un homme a été tué et plusieurs autres ont été arrêtés à San Félix après le vol d'une épicerie et l'attaque de véhicules d'État. Et voilà le pays détenteur d'un triste record parce que le taux d'homicide est le deuxième plus élevé du monde avec 56 pour 100 000 habitants selon les chiffres officiels.
Et dans tout ça, que font les pouvoirs publics en fait ?
L'actuel président et successeur d'Hugo Chavez, Nicolas Maduro, semble préférer l'immobilisme économique cumulé à un durcissement politique plutôt que le dialogue. Le peuple gronde de plus en plus depuis la mort du charismatique Chavez en mars 2013. Un mouvement estudiantin de protestation anti-gouvernement a été lancé le 4 février 2014 et gagne le pays entier, notamment Caracas, la capitale. Le gouvernement de Nicolas Maduro ne semble pas prêt au dialogue. La police n'hésite pas à arrêter et à incarcérer les manifestants qui s'opposent au régime. L'opposition politique est également muselée, surtout en cette période préélectorale. Et là se situe la plus grande crainte et la plus grande faiblesse du gouvernement Maduro. Les élections législatives approchent et l'opposition monte dans les sondages, ce qui est une première depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir en 1998.
Oui, il avait complètement bouclé le pays, électoralement parlant.
Tout à fait. Donc cette opposition part favorite pour le scrutin législatif du 6 décembre prochain. Et comme le souligne Marie Del Cas, correspondante du Monde à Bogota, la MUD, c'est-à-dire la Mesa de la Unidad Democrática, peine encore à rassembler tous les déçus du chavisme. Pourquoi ? Parce que ce parti d'opposition, qui est une coalition, reste fragile et est discrédité par des divisions. Même si l'opposition perce, le gouvernement en place la muselle totalement. Le Conseil national électoral a refusé d'enregistrer les candidatures de personnalités d'opposition ayant fait l'objet de sanctions administratives, relate encore Marie Del Cas. Bon, tout ce charabia pour dire qu'en gros, aucun leader opposition ne peut présenter sa candidature aux élections présidentielles parce que pratiquement tous ces leaders ont été arrêtés au moins une fois dans leur vie et suspendus de leurs fonctions politiques. C'est le cas d'ailleurs de Maria Corina Machado, une des dirigeantes les plus radicales de la MUD, qui s'est vue interdite de fonction publique pour 12 ans. Bref, la situation est des plus tendues dans le pays. Et pour couronner le tout, les États-Unis s'en mêlent, réclamant la présence d'observateurs étrangers pendant le scrutin du 6 décembre, comme si on avait que ça à faire. Bon, gardons notre poste d'observation et attendons le 6 décembre. Le peuple vénézuélien devra faire le bon choix.
Espérons qu'une opposition démocratique arrive tout de même à s'organiser. Alors merci Aurore pour ce billet qui est parti outre-Atlantique. On va maintenant ouvrir le dernier temps de l'émission, un temps de discussion, une petite discussion courte aujourd'hui, puisqu'on va revenir sur quelques-uns des thèmes abordés dans l'émission et peut-être d'autres.
Et alors maintenant sur la série.
Un doodle ?
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et
c'est. On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et
j'y passe tous les jours.
Alors, le sujet qui a quand même défrayé l'actualité ces derniers jours, c'est cette question des réfugiés et des migrants. Et on assiste à un véritable ballet politique entre Jean-François Copé qui nous étonne par sa générosité, bon, Marine Le Pen qui ne nous étonne pas par sa générosité, mais ça on y est habitué, Alain Juppé aussi qui a annoncé qu'il accueillerait des migrants à Bordeaux. Recomposition à droite, ça sent les écuries présidentielles, non ?
Ça sent la petite fissure chez les Républicains entre la droite forte et les centristes. Enfin, je ne sais plus si la droite forte encore ou pas, mais
Élise, toujours dans les années 80.
Ouais, non, mais.
Mais alors là, tout de même, ce qui est intéressant, c'est que François Baroin, qui était l'humaniste à l'UMP, qui était quasiment un homme de gauche, finalement, pour Jean-François Copé, qui était son grand opposant lors de la primaire qu'il avait opposée à François Fillon, eh bien, lui ne veut absolument pas accueillir de migrants à Troyes. Est-ce que. Quelle recomposition. Qu'en pensez, à votre avis ?
Il n'y a pas de quoi être étonné que le gauchisme de François Baroin ait fait le feu déjà. Je ne sais pas. Mais ensuite, l'idée d'une recomposition entre la frange droite de l'UMP et le FN et tout ce qui gravite autour, on en parle depuis des années, mais on ne voit toujours rien venir. Il y a quand même la logique du parti encore qui maintient les Républicains. Et visiblement, c'est assez solide quand même, hein, malgré les divisions, parfois très profondes.
Je pense qu'il y a des questions électorales derrière. Quand chacun fait ses petits calculs suivant son électeur et prononce son discours en fonction de ça. En fait. Et il y a aussi peut-être des logiques locales.
Oui.
Le FN n'est pas implanté partout de la même manière. Et donc,
Certains ont visiblement du mal à lire les logiques locales, puisque le maire de Roanne a une très forte communauté d'Europe de l'Est dans sa ville, une communauté originaire d'Europe de l'Est, mais qui vote. Donc voilà, bon, on a le talent politique qu'on peut avoir. Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, mais qui a fait la une de l'actualité, c'est Daesh, comme toujours, Daesh et ses horreurs, avec la destruction du fameux temple de Baal à Palmyre, et puis l'assassinat pur et simple du directeur du site archéologique. On parle maintenant d'une opération armée, alors que les États-Unis bombardent avec des drones depuis maintenant plusieurs mois. Qu'en pensez ? Va-t-on enfin aboutir sur quelque chose ? Est-ce que c'est de la politique intérieure, tout simplement, avec François Hollande qui annonce ça en grande pompe.
Ah, mais je crois qu'avec BHL, on est sauvés. il a tué bien plus de membres de Daesh que toutes les armées réunies qu'on a pu envoyer là-bas. Donc je fais totalement confiance à Bernard-Henri Lévy.
Hein.
Ah oui, toujours nickel.
Oui, mais Bernard-Henri Lévy, toujours présent dans les zones de guerre. François Hollande a annoncé une opération armée, une partie de la droite. Le soutien. Est-ce que François Hollande court-circuite la droite et se pose, comme après Charlie, en grand président de la République ?
Oui, il y a la volonté comme ça de faire ça le chef de guerre. Il aime bien faire ça. Hein, et ça lui réussit souvent, c'est bien. Mais bon, là, il y a quand même un revirement assez surprenant. Il y a encore 2 semaines, à propos de Bachar al-Assad en Syrie, il disait qu'il fallait qu'il s'en aille. Maintenant, on va de plus en plus vers une réouverture du dialogue avec lui. Ce qui serait quand même peut-être pas une bonne chose, mais en tout cas un moindre mal, parce que c'est encore lui qui dirige le peu d'institutions qui restent en Syrie.
Qui contrôle une partie du pays et de l'armée.
Mais voilà, c'est ça. Mais malheureusement, ces interventions militaires, ça va se traduire par un alignement sur la politique extérieure américaine, comme toujours avec la France depuis une quarantaine d'années. Et il pourra en sortir rien de bon, vu qu'on continue à faire une... Comment dire, à exclure de manière très puissante la Russie des discussions géopolitiques. Et ça ne peut pas marcher sans la Russie, qui intervient en Syrie déjà.
Oui, qui intervient, on a vu des photos, et qui connaît de toute façon le terrain du Moyen-Orient depuis les années 80, et la merveilleuse campagne d'Afghanistan que l'on connaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Je pense que, enfin, on ne t'en a pas parlé, mais il y a la corrélation aussi avec les vagues migratoires. Je pense que plus grand déplacement depuis la Seconde Guerre mondiale, on se dit qu'il faut faire quelque chose aussi, quoi.
Oui.
Les temps de...
Oui, bien sûr.
Et après, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur Bachar el-Assad, parce que récemment, il y a les chiffres qui sont sortis, et 80% des victimes du conflit syrien depuis qu'il a démarré en 2011 sont des victimes du régime,
c'est clair.
En fait.
Oui, bien sûr.
Donc, à un moment, il faut être crédible, et faut, soit on a des idéaux démocratiques, soit on n'en a pas. C'est vrai, je pense que la population, auprès de la population locale, il faut être cohérent.
Bon, une affaire à suivre. En tout cas, on verra si cette opération armée se concrétise dans les prochaines semaines et si on rouvre ou pas le dialogue avec Bachar el-Assad. Alors, c'est maintenant l'heure de nous quitter. J'espère que ce numéro de rentrée vous a intéressé, vous a plu. Si vous avez envie de rejoindre Transistor et de passer derrière le micro pour de l'actualité ou pour autre chose, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez tout simplement envie de nous écouter, n'hésitez pas non plus. Transistor.fr est ouvert à tous. Et si vous voulez passer derrière le micro, n'hésitez pas à nous alpaguer, dans les couloirs, par mail, à la piscine, bref. Trouvez-nous. L'Amplifié a également besoin de vous pour continuer cette année, puisqu'on a
une chronique politique qui est vacante.
De même qu'une chronique internationale. Beaucoup de choses se chamboulent pour nous cette année. Bref, nous avons besoin de vous, comme Transistor a besoin de nouveaux adhérents et auditeurs. À vous les studios.
Alors, encore une fois, la Haute-Loire va se faire remarquer, mais on a eu un bulletin pour Zlatan Ibrahimovic quelque part.
Lino, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui ?
Eh bien, Clémence, il faut vraiment rentrer dedans.
Et comme d'habitude autour de moi, Maëlys, Céline, Lino et Jérémy.
Je ne vais pas vous parler non plus de Dallas au pays des fascistes, ou le pseudo-parricide politique d'une fille envers son père qui omnubile les médias depuis quelques semaines. Mon Dieu que c'est long, et que c'est malsain. Franchement, vous en êtes pas marre, vous.
Et la crainte pour les producteurs européens de se voir couper l'herbe sous le pied par les vaches de Nouvelle-Zélande, très compétitives.
0,62 x 600 euros. Clément, tu as la réponse de tête ? Ah, oh, t'es...
Merci à tous les quatre.